Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il en Haïti ? L'île des Caraïbes est plongée dans un chaos politique, économique et humanitaire qui atteint des sommets depuis quelques semaines. Après une flambée de violence aggravée par les puissants gangs haïtiens, l'impopulaire Premier ministre Ariel Henry n'a eu d'autre choix que de démissionner. L'heure est donc désormais à la transition politique. Mais comment assurer une solution durable alors que le pays est au bord de l'effondrement ? Pourquoi les gangs armés ont-ils autant de pouvoir ? Pour répondre à ces questions, j'appelle Jean-Michel Hauteville, correspondant du Monde dans la région caribéenne. Haïti, tout comprendre à la crise politique et humanitaire, un épisode de Garance Munoz, réalisation Thomas Zegg. Nous sommes le 5 mars 2024 à Port-au-Prince. Depuis près d'un mois, la population haïtienne descend dans la rue pour protester contre celui qui dirige le pays, le Premier ministre Ariel Henry. Les Haïtiens réclament sa démission, en vain pour le moment. Ce jour-là, un homme prend la parole. Gilet pare-balles, gants de cuir noir, l'air menaçant, Jimmy Cherizier organise une conférence de presse. Celui que l'on surnomme « Barbecue » est un chef de gang très influent. L'ancien policier est à la tête d'une coalition de bandes armées surnommée la famille G9 et son message est clair, Ariel Henry doit partir.
Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il va mener nous directement dans une guerre civile et qu'il va déboucher sur un génocide.
Ce discours marque le point d'orgue d'un déchaînement de violence de la part des gangs. Les bandes armées ont déjà attaqué une prison dont des milliers de détenus se sont échappés, incendié un commissariat de police ou encore pris d'assaut l'aéroport de Port-au-Prince. Bref, la situation est incontrôlable. Alors, quelques jours plus tard, le 11 mars, Ariel Henry démissionne enfin.
Après conseil des ministres à Souéa, accepté pour le mettre en place. On conseille présidentiel de transition.
Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Haïti est-elle tombée aux mains de gangs armés ? Et surtout, que faire pour rétablir l'ordre et l'autorité de l'État ? Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Jean-Michel, on va revenir avec toi sur la situation actuelle en Haïti, la montée en puissance des gangs et la transition politique en cours. J'aimerais d'abord qu'on revienne un peu en arrière, avant la démission d'Ariel Henry. Pourquoi est-ce que les Haïtiens rejetaient autant leur Premier ministre, comme on l'entendait dans l'introduction de cet épisode ?
Eh bien, Ariel Henry est arrivé au pouvoir finalement dans une période qui est très très traumatisante pour les Haïtiens. Il est arrivé au pouvoir en juillet 2021. Il a été nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse et qui a été assassiné 2 jours après. Il n'était pas encore installé au poste à ce moment-là. Il l'a été après quelques jours de gros troubles. Et donc, dans ce contexte extrêmement mouvant et de vide institutionnel, il a réussi à s'installer en tant que président par intérim. En tout cas, se faire apprendre ce titre puisque la fonction de présidente n'a pas été remplacée. Mais il n'a pas acquis de légitimité politique. Ariel Henry donc n'a pas été élu et il a promis à plusieurs reprises des élections. Il y a eu des échéances qui ont été atteintes à plusieurs reprises, repoussées. Et il devait quitter le pouvoir en vertu d'un accord qu'il avait passé avec la classe politique haïtienne en 2022. Il devait quitter le pouvoir au plus tard le 7 février 2024. Après, bien sûr, des élections qui auraient dû être organisées l'année dernière, en 2023. Cet accord n'a pas été respecté et donc là, il y a vraiment eu un trop-plein.
Oui, et la colère de la population face à ces élections, une fois de plus repoussées, c'est ce qui va embraser Haïti.
Il y a vraiment eu effectivement un ras-le-bol général, sachant que la dernière fois que les Haïtiens ont pu voter, c'était en 2016. Et depuis, la situation économique, politique et sécuritaire surtout s'est fortement dégradée. L'île est confrontée à une flambée de violence en janvier-février du fait de la colère populaire.
Donc une série de manifestations, la colère des Haïtiens qui grandit, des violences de plus en plus importantes, et pourtant, Ariel Henry ne démissionne pas encore.
Non, Ariel Henry fait comme il a su le faire pendant 2 ans et demi, s'accrocher au pouvoir, faire le gros dos et vaquer à ses occupations, en attendant que l'orage passe. Mais cette fois-ci, tout de même, il avait peut-être sous-estimé la force de cette volonté de rejet. Il est parti en voyage à l'international. Et ça, je pense que c'est une erreur stratégique majeure. Donc, il est parti rencontrer ses homologues de la région caribéenne dans un sommet au Guyana, un pays donc de l'Amérique du Sud, où se situe le siège de la communauté caribéenne, la CARICOM. Et ses homologues caribéens, eux, étaient extrêmement préoccupés par cette violence toujours plus forte, ces troubles politiques. Et donc, ils ont pressé le Premier ministre, Ariel Henry, de présenter un plan crédible de transition pour éviter une contagion et une déstabilisation de toute la région. Ils ont tellement forcé la main qu'en fait, ce sont eux, les dirigeants caribéens, qui ont annoncé, donc fin février, le mois dernier, à la place du Premier ministre Ariel Henry, qu'il allait quitter le pouvoir et organiser des élections au plus tard en août 2025.
Et le fait que ce soit annoncé par ses homologues, c'est vécu comme une humiliation pour lui et pour les Haïtiens ?
Oui, on parle de politique intérieure haïtienne et c'est quand même extrêmement troublant que ce soit le Premier ministre des Bahamas qui dise qu'il y aura des élections en Haïti au plus tard en août 2025. La crédibilité en interne de ce Premier ministre a encore chuté, si tant est que ce soit possible, et ça représente surtout une échéance très lointaine pour les Haïtiens, hein, ça veut dire dans 1 an et demi, et surtout ça veut dire des élections en 2025, en août 2025, ça voudrait dire finalement une passation peut-être au plus tard en février 2026, c'est beaucoup trop loin pour les Haïtiens. Et en fait, la colère a redoublé d'intensité.
Donc la colère redouble d'intensité et c'est à ce moment-là de l'histoire que les gangs, notamment celui de Barbecue, ce chef de gang dont je parlais en introduction, prennent le contrôle et donc que la situation dégénère complètement.
Oui, prennent le contrôle. En tout cas, ces gangs, ils ont profité de l'absence du Premier ministre. Et il y a eu ces menaces très très précises prononcées par ce chef de gang, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, de provoquer une guerre civile suivie d'actions spectaculaires. Hein. Donc les gangs ont attaqué 2 prisons dans la région de Port-au-Prince, dont la prison centrale d'Haïti, et libéré des milliers de détenus. On parle de 4000 détenus. C'est une prison qui était bien sûr en surpopulation carcérale. Ils ont tué des policiers et ils s'en sont pris donc au port de Port-au-Prince, vital pour l'approvisionnement du pays en vivres. Et ils se sont attaqués à l'aéroport international Toussaint-Louverture, qui est le principal aéroport du pays, et ce qui a conduit à un plus grand isolement finalement physique d'Haïti et empêché le retour du Premier ministre Ariel Henry dans son pays après ce voyage à l'international. Donc Ariel Henry s'est retrouvé en situation de faiblesse encore plus caractérisé et il a été lâché par ses soutiens internationaux face à cette incurie et il a fini par démissionner lundi 11 mars et dans une allocution publiée sur les réseaux sociaux.
Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin d'un développement durable. Haïti besoin de rebâtir institutions démocratiques libres.
Ok Jean-Michel, on a vu donc comment Ariel Henry a été poussé vers la sortie. Et alors, cette crise sécuritaire, elle a également, tu nous le disais un peu, pour toile de fond, une crise économique majeure et une faillite de l'État haïtien. À quel point est-ce que la situation, elle est grave aujourd'hui ?
La situation est plus que grave, elle est vraiment désastreuse économiquement. Donc Haïti est un pays pauvre depuis malheureusement longtemps, mais la pauvreté s'est accrue ces dernières années à la faveur justement de l'insécurité. On a un taux de pauvreté qui avoisine les 60% de la population haïtienne, c'est-à-dire 60% de gens vivant avec moins de $2,50 par jour. On a l'économie qui se grippe et cette violence qui part en flèche. On a eu 2000 homicides selon l'ONU en 2022, près de 5000 en 2023 et les premiers mois de 2024 montrent que cette tendance se poursuit et s'accélère.
Et cette violence qui empêche d'ailleurs tout développement économique, elle est due à la montée en puissance des gangs dont on parlait plus tôt. Alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène de cette montée en puissance de ces gangs ?
C'est un phénomène complexe qui remonte à plusieurs années. La fin des années 90, il y a eu des soubresauts politiques en Haïti qui ont permis la montée en puissance de milices. Les autorités haïtiennes ont dissous l'armée dans les années 90 par crainte de coup d'état militaire. Donc bon, ça a favorisé la montée en puissance de ces milices armées. Ce phénomène s'est amplifié après une énorme catastrophe naturelle, le tremblement de terre de 2010 qui a détruit Port-au-Prince et causé des dizaines et des dizaines de milliers de victimes.
Selon les témoignages, aucun bâtiment à étage n'a résisté. Tous les grands édifices publics ont été détruits, le palais présidentiel, la cathédrale, la mission des Nations Unies. Le centre-ville est jonché de cadavres et de blessés.
Le pays s'est jamais vraiment relevé de cette catastrophe et des personnalités politiques de premier plan se sont appuyées, pour certains d'entre eux, sur ces bandes criminelles pour finalement asseoir leur pouvoir, accomplir leur base d'œuvre, museler ou supprimer les opposants. Et ces gangs sont maintenant, pour certains d'entre eux en tout cas, des vraies organisations hiérarchisées, avec une quasiment structurée, bureaucratisée. Et donc, il y a quelques jours, au début du mois de mars, je parlais avec Rosie Auguste du Sénat, qui est directrice des programmes du Réseau National des Droits de l'Homme en Haïti, RNDDH. Elle m'expliquait cette collusion totale entre les gangs et les institutions du pays.
Aujourd'hui, les gangs armés sont utilisés comme socle pour garder le pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, pour acquérir le pouvoir. Et cette mauvaise gouvernance que nous dénonçons, si elle ne change pas, on sera toujours et encore dans cette situation. Et nous parlons de qui ? Nous parlons d'autorités qui sont de connivence avec des bandits armés. Nous parlons d'autorités judiciaires qui protègent les bandits armés en ce sens qu'ils ne les jugent pas, qu'ils ne les condamnent pas. Donc c'est ça aussi notre situation. Donc pour nous, c'est cette mauvaise gouvernance qui doit être touchée du doigt avant tout.
Donc ces gangs-là, ils contrôlent de vastes portions de territoire à un point où ils deviennent presque un para-État. Mais alors, est-ce qu'ils n'ambitionnent pas tout simplement de prendre le pouvoir ? Jimmy Chérizier, dont tu nous parlais, le leader au nom de Barbecue, et qui fait des grands discours, il n'envisage pas de passer complètement aux manettes ?
Je ne pense pas. A priori, non, c'est pas quelque chose qui semble crédible pour les interlocuteurs à qui j'ai pu parler. Bien sûr, il est devenu très puissant, tout puissant, mais gérer un État, non, ça ne semble pas être ce qui l'intéresse. Mais bien sûr, il est indéniable qu'ils ont le pouvoir de peser sur cette transition politique en cours en Haïti, depuis la démission du Premier ministre Ariel Henry. Par exemple, Jimmy Chérizier, alias Barbecue, a annoncé, une fois de plus, de manière tonitruante, comme il sait le faire, qu'il n'accepterait pas un gouvernement formé sous l'égide de la CARICOM. Et donc, entre les lignes, son aval sera nécessaire pour que Haïti dispose d'un gouvernement stable. Donc, pour beaucoup d'observateurs, ça fait peine à dire, mais Haïti est devenu un État failli.
Et ceux qui subissent cette violence, cet état failli, ce sont finalement les Haïtiens. La situation est trop dangereuse aujourd'hui pour aller sur place en tant que journaliste, mais toi tu es en contact avec des personnes qui vivent là-bas, alors qu'est-ce qu'elles te racontent de leur quotidien ?
C'est vraiment un quotidien rythmé par cette violence. Donc les habitants, ne serait-ce que pour vaquer à leurs occupations, aller travailler, aller faire leurs courses, aller s'acheter des médicaments, ils doivent slalomer entre les balles, en gros. Et donc ils subissent des rackets. Beaucoup de quartiers se barricadent, ferment les rues, et surtout le soir, pour empêcher à toute personne inconnue d'accéder au voisinage. Donc il y a vraiment un quotidien de repli, de peur, de violence. Et par exemple, la cinéaste haïtienne Rachel Magloire, qui réalise des documentaires, m'a raconté il y a quelques jours son sentiment de vivre en prison dans la ville de Pétionville où elle habite, qui est en fait un peu moins dangereuse malgré tout que Port-au-Prince.
Depuis 2018, les entrées et sorties de la ville sont dangereuses, sont contrôlées par les gangs et donc depuis lors, c'est pas possible de sortir par la route. Et c'est pas possible en voiture privée, ça se fait en transport public, parce que les transports publics payent les gangs depuis cet épisode que nous vivons maintenant. L'espace est encore rétréci. Donc, on se sent prisonnier. Là, maintenant, je ne veux pas aller. J'ai des amis qui habitent dans certains quartiers qui ont dû les quitter. Et j'ai des collègues de travail qui ont dû quitter chez eux. Donc, tout le monde vit des situations extrêmement dangereuses et inquiétantes.
Cette violence qui vraiment submerge le pays, plonge la capitale et le pays dans une crise humanitaire qui s'aggrave, en fait, étant donné que les médicaments n'arrivent plus, les hôpitaux ont du mal à fonctionner, ils sont pas approvisionnés en médicaments, et les denrées alimentaires également sont de moins en moins livrées, non seulement celles qui viennent des autres régions du pays pour être livrées à Port-au-Prince, et celles qui viennent de l'extérieur, de l'étranger. Donc il y a vraiment la faim qui s'installe en Haïti, qui menace des centaines de milliers de personnes, et l'accès à la médecine, aux médicaments, qui atteint un point critique.
Ok Jean-Michel, donc une crise économique, sécuritaire, humanitaire extrêmement grave, mais tout de même un élément susceptible peut-être de changer la donne et de débloquer certaines choses, c'est la démission de Ariel Henry. Est-ce qu'on peut placer tout de même quelques espoirs dans ce processus de transition politique qui s'ouvre ? Comment ça va se passer déjà ?
Oui, alors en matière de transition politique, il semble que les choses soient en passe de se débloquer. Un conseil présidentiel de transition a été mis en place. Donc, il comporte 6 membres issus des différents partis politiques haïtiens et d'organisations non politiques telles que le patronat, la société civile. Il y a eu, ça a quand même duré une bonne semaine pour mettre en place cette structure. Donc, il y a eu beaucoup de tractations, ce qui montre qu'il y a tout de même, peut-être la capacité d'entente des acteurs politiques haïtiens et de la société n'est pas optimale, mais au moins, ils sont parvenus à mettre en place cette structure de transition qui aura pour mission, pour tâche, en vertu de l'accord trouvé à Kingston le 11 mars à la Jamaïque. Donc, ce conseil de transition devra nommer un gouvernement de transition, ainsi qu'un premier ministre qui prendra la succession d'Ariel Henry.
Et au niveau sécuritaire, les forces de l'ordre haïtiennes semblent complètement dépassées par les gangs. Est-ce qu'il y a des perspectives pour endiguer cette violence ?
Là, c'est malheureusement plus complexe que pour la politique. Donc, effectivement, les forces de l'ordre haïtiennes sont débordées, oui. La réponse est oui. En l'occurrence, il s'agit de la police nationale haïtienne, PNH, qui joue un rôle clé dans la lutte contre la violence, mais qui est complètement dépassée. En octobre 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution autorisant l'envoi d'une force multinationale en Haïti pour venir en appui épauler la PNH. Cette force multinationale est censée être dirigée par le Kenya. Ça interroge beaucoup de personnes dans la société haïtienne. L'envoi même d'une force multinationale est loin de faire l'unanimité dans le pays, car il y a les mauvais souvenirs laissés par les précédentes interventions internationales, voire onusiennes, dans le pays, comme par exemple la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, la MINUSTAH, entre 2004 et 2017, qui finalement s'est soldée par l'introduction du choléra dans le pays, et avec une épidémie qui a fait beaucoup de victimes. Et il y a eu aussi toute une affaire, toute une série d'abus sexuels, de viols commis par des membres de cette mission onusienne. Et tout ceci s'ajoute au fait que pour les Haïtiens, ces interventions internationales répétées, c'est une violation de leur souveraineté, leur souveraineté nationale, à laquelle ils sont attachés. Mais tout de même, du fait de cette situation sécuritaire de plus en plus grave, beaucoup d'Haïtiens appellent tout de même de leur vœu un appui international, une intervention d'une forme ou d'une autre, même s'il y a encore beaucoup de discussions là-dessus.
Merci Jean-Michel.
Merci Jean-Guillaume.
Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain pour un nouvel épisode.